La rouscaille.
Ah, tout, tout, tout. Aïe, ah, tout, tout, tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
La rouscaille.
Bonjour. On se retrouve une nouvelle fois après deux semaines d'interruption pour une émission de La Rouscaille. Et on voudrait s'intéresser aujourd'hui encore à l'exploration de continents perdus. Mais cette fois-ci des continents symboliques ou historiques, engloutis sous les eaux glacées du calcul égoïste ou sous les routes commerciales et militaires des navires européens. Pour ça, on voudrait partir de certains épisodes historiques qui nous ont semblé dignes d'attention. Mais comme il nous arrive, comme on dit, de cracher sur l'histoire avec un grand H, on va plutôt s'intéresser à une série de décrochages mineurs, mais nombreux, vis-à-vis de ce qui serait un sens de l'histoire. Par exemple, l'expansion planétaire des puissances européennes et de la civilisation marchande. Mais si ces déviations par rapport à l'histoire des vainqueurs nous sont chères, c'est parce qu'on se reconnaît en elles, dans cette tentative pour faire exister d'autres possibles étouffés par le monde présent. Et aussi parce qu'elle nous semble bien illustrer cet adage « L'univers est clos, mais le monde infini ». L'univers est clos, c'est-à-dire celui qu'on possède à force de grandes conquêtes, de voyages spatiaux et de mains interplanétaires, et qui s'épuise. Tandis que le monde suffit intensément, à chaque fois que des êtres en rencontrent d'autres, et se dotent d'expériences, de perspectives, et aussi d'une certaine prise sur les choses. Les quelques épisodes historiques qu'on va passer en revue relèvent du marronnage, de la désertion, du métissage, ou de la création de mondes communs. Et ils ont tous plus ou moins lieu dans les débuts du Nouveau Monde, c'est-à-dire à un moment de l'histoire où des peuples de différents continents sont mis en relation.
Les êtres humains m'ont adopté. J'étais un des leurs. Ombre qu'on commence à voir, m'a appris à tirer à l'arc, à approcher le gibier. Les brûlures du soleil m'a montré le moyen de protéger ma peau blanche contre les coups de soleil. C'est un fait peu connu, mais certains Indiens peuvent attraper de terribles coups de soleil. Et mon vrai professeur, c'était mon grand-père adoptif, peau de la vieille hutte. Il m'a appris à lire une piste, à parler la langue chénienne et un tas d'autres choses. Pour un enfant, c'était un vrai paradis. Je ne jouais pas à l'Indien. J'étais un Indien.
Alors bien sûr, on parlera d'histoire d'Indien, mais pas seulement. Pour s'intéresser à ce thème, on a lu plusieurs livres qui parfois se faisaient écho les uns aux autres et qui se renvoyaient, et qui ont comme dessiné un parcours qu'on va essayer de rendre et qu'on espère va vous toucher autant que nous. Le premier de ces livres raconte ce qu'on pourrait considérer comme une histoire inaugurale du Nouveau Monde. Une histoire exemplaire de ce qu'aurait pu être, en fait, le Nouveau Monde, et qui nous est donnée par le sort des toutes premières expéditions coloniales anglaises vers la côte ouest de l'Amérique. Alors, c'est au début du XVIIe, lorsque des compagnies de commerce privées, comme la Virginia Company de Londres, celle qui va donner son nom aux colonies de Virginie, recrutaient des hommes dans les grandes villes d'Angleterre pour devenir les marins, les bras et les mains de toutes ces expéditions coloniales. Et en fait, une grande partie de ces gens venaient d'être poussés hors de leur ville par des grandes vagues d'expropriation qui avaient restructuré l'Angleterre sous le nom de mouvement des enclosures, c'est-à-dire cette fermeture des champs communaux menée par les grands propriétaires terriens qui avait conduit à détruire tout un monde fondé sur une paysannerie non commerciale et la jouissance des ressources communales, les fameux commons. Et un des effets principaux avait été d'augmenter énormément la population d'oisifs et de vagabonds dans le pays, que justement la colonisation du Nouveau Monde et le fait d'envoyer ces gens travailler dans les plantations commerciales outre-mer devait régler. Par exemple, il y a l'historienne Silvia Federici qui écrit à ce propos la chose suivante.
Pour la plupart des prolétaires, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'accès au Nouveau Monde passait par l'indenture, un contrat de travail assimilable à la domesticité, et par la déportation, la punition que les autorités anglaises adoptèrent pour débarrasser le pays des condamnés, des dissidents politiques et religieux, ainsi que de la vaste population de vagabonds et de mendiants qu'engendraient les enclosures. Mais la crainte qu'avaient les colons d'une colonisation non régulée était justement fondée, étant donné les conditions de vie misérables qui existaient en Europe et l'attrait qu'exerçaient les récits circulants à propos du Nouveau Monde, le décrivant comme une terre merveilleuse où les gens vivaient libres du labeur et de la tyrannie, des maîtres et de la cupidité, où tiens et miens n'avaient pas cours, tout étant détenu en commun.
Voilà, donc c'est extrait du livre Caliban et la sorcière. Et justement, c'est au nom de cet idéal que lorsque un des navires qui était censé traverser l'Atlantique pour coloniser l'Amérique fait naufrage en 1609 dans l'archipel des Bermudes, que les naufragés découvrent, c'est la possibilité de mener cette vie très différente de la vie de labeur qu'il aurait promis dans les plantations. Alors grâce notamment à ce que proposent les îles des Bermudes, elles ont un climat estival parce que leur surnom c'est les Summer Islands, une nourriture extrêmement abondante, et grâce surtout au fait que le commandement est complètement désorganisé suite au naufrage, beaucoup de naufragés s'organisent en marronnage pour jouir de toutes les aménités de l'île et ne jamais repartir vers cette Virginie qui leur propose des journées de travail exubérantes et une discipline de fer. Et en fait, ce qui les guide, d'après les historiens, à ce moment-là, c'est justement la possibilité de recréer l'expérience des communaux. Cette expérience que leur génération, ou même la génération d'avant, a expérimentée, et dont surtout ils ont fait l'expérience de la dépossession. Il y a beaucoup de personnages de la culture populaire ou même littéraire qui témoignent de ce mouvement. Et il y en a un, c'est notamment le personnage Gonzalo, dans la pièce de Shakespeare qui s'appelle La Tempête, et qui est inspiré de cette histoire de naufrage aux Bermudes. Alors par exemple, on peut lire la chose suivante dans L'Hydre aux mille têtes.
Shakespeare, s'inspirant des démarches des commoners naufragés, fit des modes de vie alternatifs un thème fondamental de la tempête. Gonzalo, un conseiller vieux et sage qui échoue dans les Bermudes avec le roi et d'autres aristocrates, songe au Commonwealth idéal qu'il voudrait établir, s'il s'implantait dans cette île. Eh bien, dans ma communauté, j'organiserais tout à rebours du monde ordinaire, n'y admettant aucun commerce, aucun titre de magistrat, aucune sorte d'étude, richesse, pauvreté, non. Travailler pour les autres, non. Vendre, léguer, délimiter, enclore, labourer même, tailler la vigne, ah non, jamais. Car pour le bien commun, la nature produirait tout, sans effort ni sueur. Trahison, félonie, pique, épée, couteau, canon, autres engins, je n'en tolérerais pas. La seule nature pourvoirait de soi-même, foisonnante, surabondante, aux besoins de mon peuple en son innocence. Mon Commonwealth surpasserait l'âge d'or.
Voilà, donc, et dans la vie réelle, non pas dans la pièce de théâtre, en fait, les naufragés vont s'organiser pour défendre cet idéal. Et visiblement, ils s'organisent pour défendre leur liberté contre le gouverneur, contre toutes les autorités du bateau qui veulent les forcer à remplir leurs devoirs en Virginie. Et en fait, les dirigeants de la compagnie font même faire pendre et fusiller des marins et forcer tous les autres à construire des chaloupes en bois pour regagner la Virginie, là où justement les colons mouraient de faim, contrairement aux Bermudes. Et c'est donc... avec cette désertion et ce marronnage, et aussi ces exécutions capitales, que la colonisation anglaise s'inaugure. Voilà, donc on est toujours dans la rouscaille, on s'intéresse aux possibilités du nouveau monde qui ont été refermées après avoir été ouvertes à une période du début de l'époque moderne, et on s'intéresse à cette histoire exemplaire des naufragés des Bermudes, qui désertaient le rêve de conquête. En fait, on pourrait ouvrir ici une parenthèse, puisque s'il y a bien un contemporain qui a été témoin et qui a en fait raconté et travesti cette histoire de manière assez significative, c'est justement Shakespeare, qui en plus d'être un auteur de théâtre, est un riche anglais qui avait investi de l'argent dans la Virginia Company et qui est donc été très concerné personnellement par cette histoire de mutinerie aux Bermudes. Et il écrit La Tempête à partir des récits de naufrage du Sea Venture, dans une version bien sûr féerique et modifiée. Mais toutes ces pièces étaient parfois des manières de prendre parti vis-à-vis de conflits qui traversaient son époque. Par exemple, on sait que en tant que riche propriétaire terrien dans les Midlands, en Angleterre, il avait connu sur ses terres une révolte de paysans contre l'abolition des communaux, qui avaient été écrasés dans le sang. Ça lui avait inspiré une vision de la plèbe qu'on retrouve dans la pièce Coriolan, qui est une pièce romaine, antique, mais on voit une populace assez stupide et ingrate qui passe son temps à se révolter de manière assez aveugle. Et cette fois-ci, dans La Tempête, ça va être les possibilités ouvertes par le Nouveau Monde et qui pourraient menacer l'ordre capitaliste mondial qui cherche à s'instaurer, qui sont à la fois conjurées et tournées en ridicule. Donc on peut prendre quelques exemples. La Tempête, c'est l'histoire d'une dépossession. Caliban, un indigène métis qui est à moitié africain, à moitié amérindien, mais qui est aussi un peu poisson, a été réduit en esclavage par le nouveau maître de l'île, qui est lui est par contre un aristocrate européen du nom de Prospero, qui lui a pillé tous ses savoirs locaux. Et donc par exemple, on entend Caliban qui proteste dans un passage de la pièce.
« This island is mine, by Sycorax, my
mother. » « Elle est à moi, par Sycorax, ma mère, cette île. »
When you came first,
que vous me prenez. Quand vous êtes d'abord venu, vous m'avez caressé, faisant grand cas de moi. Vous me donniez de l'eau ou vous mettiez des baies. Et vous m'enseignez à nommer la grande lumière et la plus petite, qui brûle le jour et la nuit. Alors je vous ai aimé et je vous ai montré toutes les vertus de l'île. Les sources douces, les salines, les lieux arides et fertiles, que je sois maudit d'avoir ainsi fait, que tous les sortilèges de Sycorax, que crapauds, escarbots, chauves-souris se posent sur vous, car je suis tous les sujets que vous ayez, moi qui fus jadis mon propre roi.
Voilà, et le maître lui répond, esclave plein de mensonges. C'est cette histoire de dépossession qui est en arrière-fond de toute l'histoire de la tempête. Et dans la pièce, toute la désertion et le marronnage organisé par l'équipage du bateau est réduite à très peu de choses, mais quand même, elle hante la pièce, forme de vague complot social assez vite éventée. Et en l'occurrence, ce sont deux marins naufragés, particulièrement ivrognes d'ailleurs, qui s'appellent Trinculo et Stefano, qui vont chercher à s'allier avec l'indigène Caliban, même s'ils le méprisent, pour renverser le maître de l'île et s'affranchir du travail. Donc il y a par exemple une scène d'allégeance dans laquelle Caliban dit la chose suivante.
Je te montrerai chaque pouce de terre fertile dans l'île, et je baiserai ton pied. Je te prie, sois mon Dieu. Je te montrerai les meilleures sources. Je te cueillerai des baies. Je pêcherai pour toi, et je te trouverai assez de bois. La peste soit du tyran que je sers. Je ne lui porterai plus un fagot. C'est toi que je suivrai, merveilleux homme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette alliance entre les indigènes et les Européens expropriés, elle se fonde sur les secrets de l'île, les ressources naturelles et la connaissance fine que l'indigène Caliban a de son milieu. Et on aura un peu l'occasion de revenir sur l'importance de ces ressources après. Mais en tout cas, dans la pièce La Tempête, ce complot des, en quelque sorte, des prolétaires européens avec les indigènes va être vite écrasé, puisque les mutins finissent minablement assez repentis et découverts. Par contre, il n'en reste pas moins que dans les débuts du Nouveau Monde, beaucoup d'historiens ont insisté sur les possibilités qui ont été ouvertes.
Et c'est le cas de Federici, dans son livre Caliban et la sorcière. La possibilité d'alliance entre blancs, noirs et peuples aborigènes, ainsi que la crainte d'une telle unité dans l'imagination de la classe dominante européenne, en métropole ou dans les colonies, était toujours présente.
C'est peut-être le moment d'écouter un peu de musique. Toi, tu avais réfléchi à une chanson, je crois, et tu voulais peut-être en dire un mot.
Oui, alors c'est une chanson qui s'appelle « Indian Red », et qui est en fait la chanson d'ouverture et de fermeture du carnaval, enfin de la partie du carnaval de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Les Indiens de Mardi Gras, qui est un ensemble de groupes indiens comme ça qui se retrouvent. Oui, juste pour compléter ce que je disais avant la chanson. Donc en fait, les Indiens de Mardi Gras, c'est un ensemble de groupes organisés en tribus d'Afro-Américains et qui se préparent chaque année longuement pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans et pour en tant qu'Indien de Mardi Gras. Et ils font aussi à la Saint-Joseph, ils font un défilé spécial qui a lieu début mars aussi. Et du coup, ils ont des espèces de grandes parures comme ça, mélangeant culture amérindienne et afro-américaine de manière plus large. Voilà.
Et justement, on va continuer cette émission de La Rouscaille qui est dédiée aux expériences de métissage, de désertion qui ont été rendues possibles au début du Nouveau Monde, après la découverte de l'Amérique par les Occidentaux. Et on a vu juste avant ça comment dans la pièce La Tempête, un spectre hantait en quelque sorte le monde atlantique, qui était celui d'une conjuration des indigènes, des colons de toutes sortes fraîchement débarqués en Amérique, et des esclaves africains même qui commençaient à arriver, pour créer des sociétés qui risquaient de mettre en péril le projet capitaliste et colonial. Donc il y a plein de témoignages dans la culture populaire, les films et même les dessins animés, de cette possibilité d'alliance et de métissage entre différents peuples, différentes cultures.
Qui fait presque partie de leur tribu.
Ouais, ils s'habillent en indien. Ils vivent dans un tipi.
Et même parfois, ce qui était décrit, c'était un risque d'ensauvagement des populations européennes. Ici, on peut écouter l'historien Gilles Havard qui donne une conférence sur les rapports entre les Indiens. On va écouter ce qu'il a à nous dire.
Au cours du 19e siècle, sur la rivière Rouge, va naître une nation dont les descendants existent toujours aujourd'hui, qui s'appelle les Métis de la rivière Rouge, et qui en quelque sorte font vivre le rêve de Champlain et de Colbert de fonder, leur espoir c'était de fonder un peuple unique à partir de deux souches ethniques, mais ils espéraient, eux, par la même occasion, réduire les Amérindiens et réduire l'altérité, donc quelque sorte une forme d'ethnocide, c'est-à-dire transformer l'Indien en français, alors que cette nation métisse qui est née donc après la Nouvelle-France est une nation métisse véritablement, au sens d'une nation qui s'est inspirée à la fois des traditions culturelles des Canadiens français et des Amérindiens, en l'occurrence surtout des Indiens de la région de la Prairie, comme les Ojibwas ou les Cris ou les Assiniboines.
Voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça, assez peu connus, de métissage dans les temps qui suivent la découverte de l'Amérique et du Nouveau Continent. Toutes les autorités européennes et les élites coloniales craignent ce qu'ils appellent l'ensauvagement. Et on peut prendre plusieurs exemples de ça. Il y en a un, c'est celui de la région des Grands Lacs, donc entre l'actuel Canada et les États-Unis. Où en fait c'était une zone qui était aux marges de différents empires et où les contours étaient assez mal définis. Il y a un historien américain qui a écrit un livre à ce propos qui s'appelle Le Middle Ground, donc ce terrain commun, ce milieu commun que les colons européens et même les coureurs des bois issus des navigations françaises vont entretenir avec des indigènes de toutes sortes. On peut lire un extrait peut-être qui raconte
oui.
Ça.
L'élite française redoutait les conséquences de ce genre de contact. Les autorités craignaient que les Français se déplaçant dans les sociétés algonquiennes ne passent à travers les mailles à moins d'être rigoureusement contrôlés. Ce qui terrifiait les responsables français, presque autant que les dommages économiques que pourraient causer, selon eux, les coureurs des bois, c'était la menace sociale qu'ils représentaient. Selon ces officiels, les coureurs des bois étaient en train de s'ensauvager. Autrement dit, ils échappaient au contrôle de l'autorité légitime. Ce qui les effrayait le plus dans cet ensauvagement des coureurs des bois, c'est que ces derniers paraissaient s'en glorifier. Ils employaient leur liberté à se gausser de ceux qui s'estimaient meilleurs. À son retour dans l'Illinois en 1680, La Salle découvrit que ces hommes avaient non seulement déserté, mais aussi abattu son fortin, volé ses marchandises, et il lut, gravé de la main d'un homme qu'il identifia comme le Parisien, une inscription d'adieu : Nous sommes tous sauvages.
Voilà, donc La Salle, c'était un officier français qui régissait une partie de ce territoire-là à ce moment-là. Et bien sûr, il y a un. Dans cette idée d'ensauvagement, et on devient tous des sauvages, il y a quelque chose comme un malentendu, puisque de la même manière que ce que les colons européens avaient sous les yeux quand ils arrivaient dans le Nouveau Monde, ce n'était pas une nature vierge et édénique. Par exemple, les grandes forêts de Virginie qui leur paraissaient dans l'image même de la wilderness, comme on a dit plus tard, c'était en fait des forêts largement anthropisées qui avaient été modifiées par le type d'agriculture surbrûlée que pratiquaient les Indiens. Bah, de même, la vie sauvage qu'ils rejoignaient lorsqu'ils gagnaient les tribus indiennes était en fait une vie assez codifiée avec des traditions et qui n'avait rien de ce que se représentait comme une vie sauvage. Mais il n'en reste pas moins que ces personnages rejoignaient, c'était des sociétés sans classe et sans état, et qui pouvaient paraître plus attirantes pour des Français d'origine paysanne qui se retrouvaient à courir les bois américains en quête d'affaires à faire avec les Indiens, que le monde des élites françaises, commerciales et militaires.
C'était très démoralisant. Quand c'était pas un Indien qui voulait me tuer parce que j'étais blanc, c'était un blanc qui voulait me tuer parce que j'étais Indien.
Une force d'attraction assez grande de ce monde sensible, indigène, pour les colons et pour les coureurs des bois, et plus grande parfois que celle que proposait le projet de conquête. Et c'est bien pour ça que ça représentait une menace. Assez diffuse, puisque suffisamment sérieuse pour qu'au bout d'un moment, les autorités se mettent à promulguer des lois et des peines très très sévères, parfois des peines capitales, contre les blancs, qui rejoignent ces communautés.
Vous êtes une sorte de métis ou quelque chose comme ça.
Et, est-ce qu'on pouvait reprocher le plus à ces coureurs des bois, par exemple, c'était différentes choses. Alors, par exemple, les autorités se mettaient à guetter de manière très inquiète comment les tatouages indigènes se mettaient à recouvrir leur corps. Alors, tout d'abord, les parties cachées, mais aussi le visage, à leur grand désespoir. Et aussi... il y a d'autres pratiques qui leur semblaient particulièrement dangereuses. Par exemple, le compagnonnage amoureux que les coureurs des bois d'origine française, qui avaient souvent émigré seuls, pouvaient entretenir avec des indiennes de différentes tribus. Donc évidemment, ça dépend de quel milieu d'origine, mais ils en adaptaient souvent les mœurs, comme par exemple la liberté sexuelle qui pouvait exister hors mariage, ou les liaisons multiples, qu'elles soient successives ou simultanées. Et c'est toutes ces pratiques-là qu'ils mettaient un peu dans le même sac avec le terme d'ensauvagement. Ici, on peut écouter une nouvelle fois l'historien Gilles Havard qui nous dit
« La conquête de la Virginie par les Anglais se fait également dans le sillage de la conquête de l'Irlande, qui en quelque sorte sert de banc d'essai à la colonisation anglaise et de laboratoire pour les Anglais à l'expérience du contact interculturel et un contact qui se fait souvent de façon violente. » Donc, pour comprendre pleinement ce que les Anglais et la façon dont ils agissent en Virginie, il faut avoir à l'esprit la façon dont ils se sont comportés à l'égard des Irlandais, en les qualifiant également de sauvages, de barbares, qu'il fallait civiliser.
Voilà, donc il y a plusieurs choses dans cet extrait, dans ce propos de Gilles Havard, notamment le fait qu'il y a comme un jeu de renvoi entre les... disons la métropole, le continent européen d'origine et les colonies, pour ce qui est le laboratoire de gestion des populations et de projets civilisateurs. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En tout cas, ce qu'il dit aussi, c'est que les Anglais n'auraient pas pu mener à bien leur projet de civilisation sans cette notion de vie sauvage, et sans dire que ce qu'ils avaient à faire, c'était un monde, qu'il soit humain ou naturel, sauvage. Et on peut s'arrêter un petit peu sur cette notion, et sur ce qui se joue dans cette qualification, pour voir comment à la fois elle rend possible à la fois la prise en compte et le maintien à l'écart de ce qu'il y a dans le Nouveau Monde, et aussi pour conjurer les menaces sociales que représentent ces possibilités de métissage. Là, on peut s'intéresser à un autre texte qui parle cette fois de l'histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde. Donc, c'est un livre de Samir Boumediene qui s'appelle « La colonisation du savoir ». Et c'est une histoire assez intéressante, celle des plantes, justement, et notamment les plantes médicinales, et plus généralement les ressources naturelles du Nouveau Monde. On a vu, par exemple, dans la pièce La Tempête, que Caliban, l'indigène, s'est fait exproprier en montrant les sources, la faune, la flore de l'île, aux magiciens européens, qui ensuite va les exploiter et va les réduire en esclavage, lui et son île. Et plus tard, c'est encore en leur montrant les secrets de l'île que l'indigène Caliban propose une alliance avec les expropriés européens. Il leur propose de s'allier pour renverser le tyran et de jouir ensemble, de manière communale et libre, des ressources de l'île. Or, donc, dans la, le livre qui s'appelle « La colonisation du savoir », l'auteur écrit la chose suivante à propos de la notion de sauvagerie.
À l'heure où se façonne l'opposition du civilisé et du sauvage, la collecte des connaissances non européennes prend la forme d'un programme scientifique. Cette simultanéité est tout sauf paradoxale. La qualification des habitants de l'Amérique, des Antilles ou des îles du Pacifique comme « sauvages » permet en réalité de résoudre une contradiction. Comment des êtres si éloignés de la pensée européenne, si ce n'est de la pensée en tant que telle, pourraient-ils être une source de son renouvellement ? L'étendue du savoir des Noirs ou des Indiens est reconnue, mais seuls les Blancs peuvent élever ces connaissances à un degré supérieur.
Si on suit ce raisonnement, parler d'un monde sauvage, c'est ce qui permet aussi de contrôler ce qu'on va et ce qui doit passer du monde sauvage, justement. De maîtriser l'hybridation, de maîtriser le métissage qui peut survenir et toutes les menaces aussi qui peuvent en sortir. Et en ce qui concerne les plantes médicinales et leurs usages, si on rentre un peu dans le détail du livre, l'auteur montre qu'il y a, plusieurs manières de maîtriser ce qui va passer justement de ce nouveau monde. Il y a d'abord, la première chose, c'est un processus de sélection, puisqu'il y a beaucoup de plantes qui vont directement passer à l'usage en Europe, par exemple. Donc il y aura le tabac, le chocolat, et même la quinquina, cette plante qui permet de soigner la malaria. Mais par contre, de nombreux autres vont, en tout cas dans un premier temps, pas passer les mers et rester confinés dans le Nouveau Monde. Par exemple, la coca. Ou bien alors, il y a certaines plantes qui, en effet, vont passer, mais leurs usages vont rester cachés. C'est-à-dire que il y a l'exemple de cette flos pavonis, qui est une plante dont on fait un usage ornemental en Europe, mais d'autres usages, comme l'usage abortif, très efficace, n'est pas transféré en Occident. C'est un exemple de non-transfert, comme ils appellent ça. Puisque, notamment, cet usage-là est contraire à la fois à la morale chrétienne et aux intérêts des planteurs coloniaux, des administrateurs, etc. Et donc là, on a le cas d'une ignorance volontaire. Et sinon, il y a d'autres traitements, bien sûr, qui sont réservés à la pharmacopée sauvage. Et c'est celle que va prendre la connaissance scientifique, l'objectivation du monde sauvage, avec, en vue d'un usage direct, c'est la distinction entre ce qui serait médical et ce qui serait pas médical. Et en l'occurrence, avec la possibilité de marchandiser tout ce qui pourra l'être. Donc c'est une conception très très différente de ce que les Indiens, de celle des Indiens et de la manière dont ils se rapportent à leur pharmacopée, puisque chez eux, c'est très rare que la maladie soit considérée comme un trouble physiologique qu'on peut régler grâce à un traitement particulier. Par exemple, ils vont utiliser certaines plantes pour pratiquer de la divination qui cherche à trouver l'origine du mal et en même temps à soigner. Dans ce cas, c'est impossible, on voit, d'isoler ce qui serait un pur traitement médical de ce qui serait un usage plus large des plantes dans la vie quotidienne. Mais les Européens, c'est-à-dire en l'occurrence surtout les botanistes, mais aussi les marchands, l'Église et les autorités, vont tenter au contraire d'isoler ce qui serait dans ces plantes un pur principe actif et médical et l'exploiter à fond. Par exemple, une fois qu'ils se rendent compte que la quinquina, cette écorce d'arbre, produit d'une certaine manière, permet de lutter contre la malaria qui fait des ravages à ce moment-là en Europe, ils vont en faire une culture assez industrielle. Pour le reste, ils vont mettre en place, ces Européens, ce que l'historien appelle un contrôle des manières de vivre par les plantes. Donc, ça revient à en interdire certaines. Alors, il y aura l'exemple du maté, du peyote, de la coca. Le peyote, c'est un cactus qui a des vertus énergisantes et divinatoires. Et on peut se demander pourquoi ils interdisent ces plantes. À chaque fois, les justifications reviennent, c'est parce qu'elles elles représentent une menace. Alors, dans le cas de la coca, c'est assez intéressant, puisqu'il existe déjà un usage dans la vallée des Andes de la coca, qui est très répandu, donc c'est un endroit qui correspond au territoire Inca, au moment où les Européens arrivent. Et la feuille est très répandue, en fait, on mâche la feuille de coca pour tout un tas de raisons, pour lutter contre les douleurs et les peines, aussi pour lutter contre le mal de l'altitude, mais aussi pour avoir des visions, et aussi pour exercer une magie amoureuse, etc. Mais la feuille, elle est aussi enfouie sous forme d'offrande à la terre, et elle est échangée. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une monnaie, puisqu'il n'y a personne qui l'accumule, qui la thésaurise, mais en tout cas, elle sert de troc. Et lorsque les conquérants espagnols arrivent, ils vont chercher à interdire tous ces usages, qui sont je sais pas, considérés comme païens, et en promouvoir un seul, c'est-à-dire l'usage de la coca dans les mines d'or et d'argent qui vont ouvrir à ce moment-là, et où ils forcent un grand nombre d'Indiens à travailler. C'est-à-dire que les Espagnols vont isoler dans la coca, ce qui serait un pur principe de productivité, qui permet d'accroître la production des ouvriers en les rendant moins sensibles à la douleur, tandis que toutes les autres plantes vont être, à tous les autres usages de cette plante vont être mis de côté. Voilà, donc c'est bien l'exemple d'une plante dont on voudrait isoler un usage marchand et productif. En plus, c'est un moment où la coca va s'échanger à présent contre de la marchandise, c'est-à-dire que contre de l'argent, pardon. Donc elle devient une marchandise. Et ce qu'on reproche à la coca, mais c'est ce qu'on reprochera au maté et à d'autres plantes, c'est de favoriser les risques de sédition ou d'émeute. À chaque fois qu'il y a une émotion populaire, on accuse les plantes, certaines plantes d'être dans le coup. C'est plus généralement de représenter un désordre moral, amoureux ou sexuel, puisque ces plantes sont censées favoriser la perte de contrôle sur ces domaines-là. Et aussi déjà le début d'une sorte de politique de santé. Il s'agirait de préserver la santé des populations. Et tout ça, c'est ce que l'auteur appelle un contrôle des manières de vivre.